Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro Tigé Chiferao, cette semaine, Escale s'intéresse à la conférence annuelle sur l'eau qui s'est déroulée du 23 au 28 août 2015 à Stockholm, la capitale de la Suède. Cet événement international est le principal du genre à traiter des questions de gestion des ressources en eau dans le monde. Décideurs politiques et scientifiques s'y rencontrent pour échanger leurs opinions et leurs expériences. Cette année, le thème choisi était intitulé « L'eau pour le développement ». La conférence annuelle sur l'eau s'est déroulée du 23 au 28 août 2015 à Stockholm, la capitale de la Suède. Il s'agit du principal événement international traitant des questions de gestion des ressources en eau dans le monde. Décideurs politiques, experts, organisations non gouvernementales et membres du secteur privé s'y rencontrent pour échanger leurs opinions, leurs expériences. Jean-Marc Forès, de la division des terres et des eaux à la FAO, explique le but de cette conférence.
Depuis maintenant 25 ans, les professionnels, les experts et les gens intéressés aux problèmes de l'eau se retrouvent tous les ans à peu près à la même époque pour discuter des progrès justement et des défis dans le domaine de l'eau. Alors c'est très intéressant parce que le domaine de l'eau a tellement de dimensions différentes, que ce soit l'eau potable, les questions de pollution, les questions d'environnement, les écosystèmes, l'agriculture, l'énergie. Et cette réunion permet justement à tous ces professionnels qui viennent d'horizons différents de se retrouver et de discuter un thème différent chaque année. Et cette année, c'est pratiquement obligé. Le thème, c'est le développement durable, bien sûr, puisque nous sommes en train de nous préparer pour ces objectifs de développement durable. Il faut vous dire aussi que c'est la première fois que l'eau apparaît comme un objectif. La dernière fois que les pays s'étaient mis d'accord sur des objectifs, c'était les objectifs du millénaire. Et il y avait quelques efforts pour faire apparaître l'eau, mais c'est la première fois qu'il y a un objectif qui va s'occuper uniquement des questions d'eau. Pour la communauté de l'eau, ça nous a semblé quelque chose de très très important et on en discute beaucoup ici à cette conférence.
Est-ce que pendant cette conférence, vous allez aussi établir des préparatifs pour la COP21, puisque ce sera probablement un des thèmes qui sera effectivement abordé lors de cette réunion ?
Oui, ce n'est donc pas une conférence des Nations Unies, hein, ce n'est pas une conférence des partis ou une conférence ministérielle, c'est vraiment une réunion plutôt au niveau professionnel. Mais bien sûr, les enjeux sont tels dans le domaine du changement climatique pour ce qui concerne l'eau que ce sujet est suivi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Il faut bien vous dire que dans la communauté eau, on a l'habitude de dire que le changement climatique, d'une part, c'est les questions d'émissions, et ça, c'est l'énergie, et d'autre part, c'est les questions d'adaptation, et ça, c'est l'eau. Vous pouvez pratiquement faire revenir à l'eau tous les problèmes auxquels on s'attend dû au changement climatique. La variabilité des précipitations, les sécheresses, les crues, la fonte des neiges, vous voyez, c'est tout directement lié à l'eau. Et donc ça a un impact sur le travail de tout le monde qui est à cette réunion.
Selon certains experts, l'importance de cette conférence est capitale car c'est la seule occasion où différents groupes se retrouvent pour discuter des ressources hydriques. Pour Francesca Bernardini, secrétaire de la Convention sur l'eau de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, cette rencontre comble un vide de la part de l'ONU qui, selon elle, n'a pas de véritable forum qui débat exclusivement des questions liées à l'eau. On l'écoute.
Ça couvre un peu un vide du point de vue des Nations Unies, du fait qu'il n'y a aucun forum des Nations Unies qui ne discute que des questions de l'eau. Les questions de l'eau sont partagées, disons, dans différentes agences des Nations Unies et discutées sous différents points de vue. Et la semaine de Stockholm, c'est le seul événement, disons, qui permet de reprendre un peu toutes ces différentes perspectives.
Vous êtes donc spécialiste des eaux transfrontalières, des lacs et autres sources d'eau qui sont donc partagées entre différents pays. Est-ce que ce thème a été abordé lors des débats et si oui, quelles en ont été les conclusions?
Ce thème a été très important à Stockholm cette année, particulièrement important parce que, disons, du point de vue politique, il y a eu une percée avec le proposé ODD sur l'eau, parce que pour la première fois depuis 92, il y a dans un test négocié des Nations Unies un clair appel à l'importance de la coopération transfrontière. Dans les dernières 20 années, ce thème était très difficile de trouver un consensus au sein des Nations Unies pour la complexité du thème, pour le fait que ça touche les intérêts des pays, et donc on n'avait jamais trouvé une formulation consensuelle, et le fait que dans l'ODD sur l'eau, il y a une cible qui fait appel à la coopération, donc c'est vraiment une percée politique. Et donc ça démontre aussi l'importance de la coopération est maintenant reconnue. On retrouve souvent dans les journaux des alertes, les guerres de l'eau, les risques posés par la compétition sur les ressources, qui sont effectivement très forts. Aussi, le dernier rapport du WEF, du World Economic Forum, cite l'eau et les risques de conflits liés à l'eau comme ayant le plus grand impact. Donc, il y a une augmentation de la conscience sur l'importance de la coopération.
Avec 128 États à travers le monde qui partagent un fleuve ou un lac, il est clair que la coopération est essentielle pour maintenir la paix et la stabilité entre pays riverains. La moitié des cours d'eau et lacs sont utilisés par plusieurs pays. C'est notamment le cas avec le fleuve Sénégal partagé entre le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la Guinée. Amadou Lamine Ndiaye est directeur pour l'environnement et le développement durable de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Il explique tout d'abord comment le fleuve affecte la vie de millions d'habitants.
C'est plus de 10 millions d'habitants qui sont tout autour du fleuve. Mais combien de personnes en dépendent, c'est plus vaste parce que l'agriculture irriguée, qui est une activité importante pratiquée dans une importante partie du fleuve, nourrit des populations qui sont hors du bassin. En plus, l'eau potable du bassin également est utilisée dans les capitales qui sont hors du bassin. Je peux vous en donner deux. La capitale du Sénégal, Dakar, à plus de 200 km du cours principal du fleuve. Dakar est alimentée par le conduit d'eau qui quitte le lac de Guerre et qui alimente la capitale à près de 50%. La capitale de la Mauritanie, Nouakchott, n'est pas dans le bassin aussi. Elle est alimentée par une prise d'eau qui quitte le fleuve et qui alimente la capitale à partir de l'Aftout El Sahili à 100%. L'agriculture irriguée est pratiquée par des populations du bassin, mais nourrit d'autres populations qui sont hors du bassin. Si l'on prend également l'électricité, le secteur de l'énergie, qui est un secteur important pour l'OMVS, nous avons des barrages hydroélectriques qui sont dans le bassin, mais qui, par un système d'interconnexion, arrivent à amener l'électricité dans les trois capitales, que sont Bamako, Nouakchott et Dakar, qui ne sont pas dans le bassin. Et donc ces populations sont des populations qui subissent de façon indirecte l'impact de la valorisation des ressources du cours d'eau.
Les effets du changement climatique ont forcément été discutés. Comment est-ce que le changement climatique affecte, par exemple, la zone du fleuve Sénégal?
À plusieurs niveaux, parce que si je prends le secteur de l'énergie, nous avons pour l'instant le plus grand barrage qui fonctionne, est un barrage réservoir. Qui dit barrage réservoir parle de stockage d'une importante quantité d'eau issue des écoulements, donc issue de la pluie. Et les modifications du climat peuvent, si ces modifications entraînent des difficultés de remplissage, comme c'est le cas dans certains cours d'eau où existe tel barrage, cela hypothèque grandement les capacités de production en énergie, mais également pose un problème économique parce que c'est à partir des productions d'énergie, de la vente de l'énergie, que les dettes qui ont permis à faire ces ouvrages sont remboursées. Mieux, dans certaines zones également qui sont proches du cours d'eau, avec les changements climatiques, on assiste aux deux phénomènes extrêmes. L'un, c'est l'absence d'eau, qui amène les populations à être dans une situation d'obligation de modification des pratiques culturelles. L'autre extrême, c'est des inondations qui arrivent de façon imprévisible et qui peuvent également avoir des conséquences économiques lourdes. Ces changements climatiques, de fait, affectent les bassins versants parce que dès qu'il y a un cours d'eau, à chaque fois qu'il y a un phénomène climatique extrême qui sont des éléments qu'on note régulièrement avec ces changements climatiques, il y a souvent des difficultés, surtout dans la vie des populations qui vivent autour du bassin du bassin versant.
Bientôt il n'y aura plus à s'aider.
L'eau est la source la plus affectée par les aléas du changement climatique. Cela se manifeste soit par une diminution des pluies et du niveau des rivières et lacs, soit par des précipitations excessives qui mènent à de fortes inondations. Ces questions ainsi que de nombreuses autres seront abordées lors de la grande réunion sur le changement climatique qui se tiendra à Paris en décembre prochain. Janusz Pastor, le premier secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des questions sur les changements climatiques, parle de ses attentes lors du prochain sommet.
J'attends qu'il y aura un bon accord qui va sortir de réunion de Paris. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais il reste encore beaucoup de négociations à faire. Il y avait beaucoup de discussions préparatoires jusqu'à maintenant, mais les vraies négociations vont justement commencer, donc il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste beaucoup de sujets qu'on doit encore résoudre. Mais en même temps, on peut dire qu'on peut être positif et optimiste parce que les gouvernements sont prêts, ils veulent un accord et ils vont faire le nécessaire pour arriver à un résultat.
Un accord sur quoi exactement?
Un accord sur le changement climatique, ça veut dire qu'on va devoir présenter un paquet à Paris. Un paquet qui contient plusieurs choses. D'abord, il y aura ce que les pays peuvent faire aujourd'hui. Ça, c'est la première chose, ça, c'est la base. Ça ne suffit pas pour les objectifs, mais nous avons un objectif de ne pas dépasser 2 degrés Celsius de changement climatique avant la fin de ce siècle. Et ce que les pays sont prêts à faire aujourd'hui, ça ne suffit pas. Donc, il faut quelque chose en plus. Et c'est quelque chose en plus, c'est un mécanisme de revue et de monitoring pour voir quel est l'effet de tout ce que les pays peuvent faire aujourd'hui sur l'environnement, sur l'objectif de 2 degrés, et qu'est-ce qu'ils doivent encore faire et avec quelle fréquence. Est-ce que c'est chaque 5 ans ou chaque 10 ans qu'il faut que les pays reviennent et décident maintenant il faut augmenter l'ambition. Donc la deuxième partie, c'est justement ce mécanisme de revue et de décision. Troisièmement, il faut financement. Il faut le financement, surtout, il faut le financement dans chaque pays, mais il faut en plus penser aux pays en développement qui, eux, ont des besoins particuliers dans ce domaine-là.
Est-ce que selon vous, il y a une limite dans le temps aussi, une limite en matière d'action?
Oui, parce que plus on attend, le plus difficile ça devient. Et les experts nous disent qu'il faut plus ou moins arriver à des émissions maximales vers 2020. Après ça, il faut réduire très, très vite les émissions pour qu'on puisse arriver à cet objectif de 2 degrés. Donc, le plus on attend, le plus difficile ça va être parce que si on attend, il faut réduire encore plus vite et encore plus vite. Et ça va être plus cher et plus difficile. Donc, il reste peu de temps. Il y a une certaine urgence.
Selon vous, gérer le changement climatique, est-ce indispensable pour une réussite des objectifs de développement durable?
Absolument. La réponse est 100% claire, parce que il faut gérer le changement climatique pour qu'on puisse achever tous ces objectifs de développement durable. Et dans l'autre sens aussi, parce que c'est exactement les choses qu'on doit faire avec les objectifs de développement durable qui sont nécessaires pour le changement climatique aussi. Parce qu'il y a 17 objectifs. Bon, il y a le numéro 13 sur le changement climatique. Ça, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est les 12 autres qui ont des objectifs très clairs qui sont liés au changement climatique au niveau de l'énergie, au niveau des organisations des villes, de l'éducation, de la nourriture, etc. etc. Donc oui, absolument, les deux choses sont liées. Et il n'y a qu'un agenda, c'est l'agenda post-2015. Changement climatique fait partie de tout ça.
Et c'est avec le secrétaire général adjoint au changement climatique, Janusz Pastor, que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine à la 25e édition de la conférence annuelle sur l'eau. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org.
Prépare.fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.